VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir avec vous Nathalie Barge et Timothée Donangmaye. Bienvenue à l'édition du 8 juin 2015. À la une ce soir.
Début aujourd'hui au Ghana d'un deuil national de 3 jours en hommage aux victimes d'une explosion et d'inondations survenues la semaine dernière.
Au Burundi, la CENI a proposé de nouvelles dates pour les élections. L'Organisation internationale de la francophonie appelle à la reprise du dialogue politique.
Au Burkina Faso, 3 nouveaux candidats déclarés à la présidentielle d'octobre prochain, dont l'ex-ministre des Affaires étrangères, Ablassé Ouédraogo.
En Guinée, c'est confirmé, le dialogue entre le pouvoir et l'opposition est fixé au 15 juin prochain.
Comme vous savez, il y a quand même des préalables que l'opposition a eu à poser. Parmi ces préalables, il y a la libération de tous les prisonniers qui avaient été arrêtés lors des manifestations et condamnés.
Et puis, sommet du G7 en Allemagne, les participants maintiennent la pression sur Moscou à cause de son intervention en Ukraine et promettent d'adopter un accord lors de la conférence de Paris sur le climat.
Et dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal.
Deuil national de 3 jours au Ghana a compté de ce lundi pour rendre hommage aux victimes de l'explosion de la station d'essence et des inondations qui ont fait plus de 150 morts. Pour la circonstance, le gouvernement a convié les Ghanéens à porter des vêtements noirs ou des brassards rouges, à prier et réconforter les familles des victimes du double drame. Jean-Roger Bion.
Mercredi prochain, au dernier jour du deuil, un service commémoratif pour les défunts aura lieu à proximité du site de l'explosion au rond-point Kwame Nkrumah à Accra en présence du président John Mahama. Près de 10 000 personnes ont été affectées par les inondations et l'incendie qui ont fait, selon la Croix-Rouge, plus de 150 morts la semaine dernière. Les agences de l'ONU ont été invitées à collaborer avec les organismes locaux pour porter secours aux victimes de cette tragédie, qualifiée par le président ghanéen John Dramani Mahama de catastrophique et presque sans précédent. Tout est parti d'un incendie jeudi dernier, suivi d'une explosion dans une station-service de la Ghana Oil Company. Le feu se serait déclaré dans une maison avant de s'étendre à la station voisine, détruisant aussi une pharmacie et des immeubles voisins. La catastrophe a causé la mort de dizaines de personnes qui s'étaient réfugiées dans la station pour s'abriter de pluies torrentielles à l'origine d'importantes inondations.
Les Burundais attendent toujours la publication d'un nouveau calendrier électoral. La Commission électorale nationale indépendante confirme à VOA Afrique avoir transmis les dates suivantes. Le 26 juin pour les élections locales et le 15 juillet pour la présidentielle. C'est au pouvoir burundais de valider ou non ce chronogramme. Sinon, la journée a été plutôt calme ce lundi au Burundi. La police est toujours déployée en masse dans Bujumbura pour empêcher les manifestations. Au plan diplomatique, la francophonie a appelle à une reprise du dialogue politique. Nicolas Pinault.
C'est Pascal Couchepin, chef de cette mission de l'OIF, qui l'a déclaré ce lundi à Bujumbura. À l'issue de sa rencontre avec Pierre Nkurunziza, le Suisse a expliqué que l'OIF n'est pas seulement une communauté linguistique, c'est aussi une communauté de destin dans laquelle les pays partagent des valeurs communes, notamment le respect des règles démocratiques et des droits de l'homme. L'OIF se veut diplomate et assure respecter la souveraineté du Burundi en appelant à la reprise du dialogue. Il n'est pas question d'imposer au Burundi quelque chose qui viendrait de l'extérieur et qui probablement n'aurait qu'une chance de survie assez limitée dans le temps, a souligné Pascal Couchepin. La délégation de l'Organisation internationale de la francophonie doit rester plusieurs mois dans le pays alors que les manifestations s'essoufflent après un mois et demi de mouvement. La nuit dernière, pour une raison encore inconnue, le marché de Kinindo a pris feu à Bujumbura. C'était l'un des grands marchés de la capitale burundaise. La plupart des commerces sont partis en fumée.
Déclaration de politique générale du Premier ministre malien, Modibo Keïta a mis l'accent sur la révision constitutionnelle, la paix et la sécurité, la construction des routes et des infrastructures. Il a présenté un document volumineux qui touche à tous les segments de la société malienne. Celui-ci fera l'objet de débats jeudi avant son adoption par les députés. Nous écoutons Modibo Keïta.
Nous avons choisi de bâtir la présente déclaration de politique générale autour de 3 axes. Visant premièrement à assurer la sécurité des personnes et la protection de leurs biens dans un environnement de paix. Deuxièmement, améliorer les conditions de vie et d'existence des populations. Troisièmement, promouvoir la justice et l'équité.
République démocratique du Congo, le gouvernement a annoncé ce lundi l'arrestation d'une trentaine de personnes dans le Nord Kivu en liaison avec une récente attaque contre l'aéroport de Goma et des massacres commis dans cette province de l'Est du pays. Parmi eux figure un député provincial, Kenda Kenda, à qui il est reproché d'avoir fourni des armes aux commandos ayant attaqué l'aéroport de Goma dans la nuit du 1er au 2 juin et d'avoir contribué au transport des assaillants.
Dans un communiqué publié ce lundi, Human Rights Watch appelle une nouvelle fois les autorités congolaises à exhumer les corps d'une fosse commune découverte près de Kinshasa. Selon le gouvernement, la fosse de Maluku, qui est située à environ 80 km de la capitale, abrite 421 corps, dont des fœtus, des enfants morts-nés et des indigents qui auraient été, pendant la nuit, enterrés au mois de mars pour désengorger la morgue centrale de Kinshasa. La découverte de cette fosse commune en avril a alimenté des rumeurs selon lesquelles elle abriterait des victimes des troubles de janvier. Des dizaines de personnes avaient été tuées à Kinshasa lors de manifestations contre un projet de révision de la loi électorale.
L'armée nigériane a annoncé aujourd'hui le début du transfert de son centre de commandement voué à la lutte contre les islamistes armés d'Abuja à Maïdougouri. Lors de son investiture, le nouveau président Muhammadu Buhari avait affirmé que les insurgés ne seraient pas vaincus tant que ce QG ne serait pas déplacé dans la capitale de l'État de Borno, où les salafistes ont des bases et sont très actifs. Il a ajouté le porte-parole de l'armée, Sani Ousmane, a souligné que l'équipe actuellement en mission travaillait pour installer un poste de commandement avancé totalement opérationnel. Il a ajouté qu'un autre centre d'opération était en cours de transfert à Yola, capitale de l'Adamawa, où deux attentats suicides ont fait 31 morts la semaine dernière.
Les pays du G7 ont appelé aujourd'hui les parties rivales en Libye à un accord politique décisif alors qu'elles débutent une nouvelle session de négociations au Maroc sous l'égide des Nations Unies. Le temps des combats est révolu, celui des décisions politiques audacieuses est venu. Nous appelons les Libyens à saisir cette occasion pour déposer les armes, déclare le G7 dans son communiqué final.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le communiqué publié à l'issue de leur sommet, les pays du G7 ont réaffirmé leur ferme détermination à adopter un accord lors de la conférence de Paris sur le climat prévue en décembre prochain. Des précisions avec Camille Gros-Didier.
Le G7 s'est engagé sur l'objectif de limiter à 2 degrés Celsius la hausse de la température moyenne dans le monde, a fait savoir le groupe des 7 en clôture de son sommet à Elmau, en Bavière. En ce qui concerne l'Ukraine, le président du Conseil européen, Donald Tusk, a appelé le G7 à confirmer son unité sur les sanctions contre la Russie. Le président Vladimir Poutine n'était pas invité à ce sommet pour la seconde année consécutive. La chancelière allemande Angela Merkel et le président Barack Obama sont tombés d'accord sur un maintien des sanctions tant que la Russie ne respectera pas complètement les accords de Minsk et la souveraineté de l'Ukraine. Ces accords conclus en février entre les différentes parties prévoient un cessez-le-feu qui est régulièrement violé.
Le Vatican accueille cette semaine Vladimir Poutine. Une rencontre entre le président russe et le chef de l'Église catholique, le pape François, est prévue mercredi. Des sources proches du Saint-Siège, citées par l'AFP, disent que l'Ukraine et le Moyen-Orient seront évoquées lors de cette rencontre, la deuxième entre le souverain pontife et M. Poutine. Celle-ci intervient à un moment où la Russie fait l'objet de sanctions occidentales à cause de l'annexion de la Crimée et de son appui aux séparatistes de l'Est de l'Ukraine.
La Grèce va devoir faire des choix politiques difficiles. Tel est l'avertissement lancé par le président américain Barack Obama, répondant à une question sur le problème de la dette grecque. Ce lundi, deux émissaires du gouvernement grec sont à Bruxelles pour discuter d'un éventuel accord avec l'Union européenne et le FMI. Une rencontre entre le Premier ministre Alexis Tsipras, la chancelière allemande Angela Merkel et le président français François Hollande doit avoir lieu mercredi en marge d'un sommet européen consacré à la coopération avec les États latino-américains, a confié un porte-parole grec à l'AFP.
Au lendemain de la défaite de son parti aux élections législatives, le président turc Recep Tayyip Erdogan a appelé la classe politique de son pays à faire montre de responsabilité. Il est vrai que le Parti islamiste de la justice et du développement a gagné 41% des suffrages, mais il n'aura pas la majorité des deux tiers souhaités par le chef de l'État en vue de changer la constitution. M. Erdogan voulait faire de la Turquie une démocratie présidentielle au lieu du système parlementaire actuel. Il devrait tenter de former un gouvernement de coalition ou convoquer de nouvelles élections.
Toujours concernant les élections en Turquie, 96 femmes vont maintenant siéger au Parlement qui compte en tout 550 membres. C'est une sorte de record dans un pays presque exclusivement musulman où la parité homme-femme, surtout dans les zones rurales, reste un combat. Sur les 96 députés, 41 représenteront le parti islamo-conservateur du président Erdogan. 20 appartiennent à un groupe social-démocrate. 31 femmes siégeront au nom du parti pro-kurde HDP et 4 représenteront le parti de l'action nationaliste de droite. Selon les associations féministes, la situation des femmes s'est détériorée depuis l'arrivée au pouvoir du parti du président Recep Tayyip Erdogan en Turquie, où les violences conjugales et les crimes d'honneur coûtent chaque année la vie à des dizaines d'entre elles. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Un coup d'œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs. C'est la Minute Éco ce soir avec Chérubin Dorsil.
Les Pays-Bas ont accordé ce lundi au Sénégal une subvention de quelque 16 millions de dollars pour le développement du port de Ziguinchor. Ce projet comprend notamment le dragage du fleuve Casamance sur une profondeur de 7,5 mètres. Le ministre sénégalais de l'économie et des finances, Amadou Ba, a précisé que le gouvernement contribue à hauteur de 13 milliards de francs CFA dans le coût total du projet de 23 milliards de francs CFA. Nous allons avoir notre marché commun continental, a affirmé la commissaire au commerce de l'Union africaine, Fatima Aramassil, lors du forum économique régional qui s'est clôturé ce week-end au Cap. Le projet de marché unique en Afrique prendra forme avec la signature mercredi au sommet de Sharm el-Sheikh en Égypte d'un traité de libre-échange comprenant 3 blocs régionaux. La tripartite unira 26 pays qui couvrent la partie orientale du continent en créant un cadre pour des tarifs douaniers préférentiels. L'ensemble regroupera le marché commun des États d'Afrique australe et de l'Est, la communauté d'Afrique de l'Est et la communauté de développement d'Afrique australe, soit plus de 625 millions d'habitants. Le Nigérian Ade Ayeyemi a été nommé ce lundi directeur général du groupe Ecobank. Il remplacera à partir du 1er septembre le Ghanéen Albert Essien qui prend sa retraite après 25 ans de service, rapporte l'APA citant un communiqué. Ade Ayeyemi est actuellement directeur général de la division Afrique subsaharienne de Citibank basée à Johannesburg.
Merci Chérubin Dorsil pour la Minute Éco. À présent, les sports avec Nicolas Pineau. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Nathalie.
Tirage au sort des poules de la Coupe de la Confédération.
Oui, le club égyptien Al Ahly, tenant du titre, affrontera le Stade malien, l'Espérance sportive de Tunis et l'Étoile du Sahel en phase de poule, selon le tirage au sort effectué ce lundi au Caire. Al Ahly s'est fait peur face aux Tunisiens du club africain en tour de cadrage, mais a arraché sa qualification au tir au but, 5 tirs au but à 4. Alors que les deux équipes étaient à égalité 3 partout sur l'ensemble des deux matchs. La phase de poule se déroulera du 26 juin au 13 septembre et dans le groupe B, l'AC Léopard de Dolisie fera face aux Orlando Pirates d'Afrique du Sud, aux CS Sfaxiens de Tunisie et aux Zamalek du Caire.
Et la Coupe du Monde féminine au Canada.
Entrée en lice des Nigérianes face aux Suédoises et les Camerounaises contre les Équatoriennes ce soir. Hier, les Ivoiriennes ont été laminées 10-0 par les Allemandes. Non, pas d'erreur, vous avez bien entendu, 10-0.
Coupe du monde des moins de 20 ans en Nouvelle-Zélande.
Aucun match ce lundi en attendant les huitièmes de finale. Coup de chapeau puisque l'Afrique est reçue 4-4. Mercredi, le Ghana affrontera le Mali. Le Sénégal sera opposé à l'Ukraine.
Et enfin, Nicolas, la finale NBA. Cleveland revient dans la course.
La blessure de Kyrie Irving devait avoir sonné le glas des chances de Cleveland, mais les cavaliers de LeBron James ont fait mentir leurs détracteurs en surprenant Golden State hier soir dans sa salle. L'équipe de LeBron James s'est imposée 95-93 et revient à égalité, une victoire partout.
Merci beaucoup Nicolas pour les sports.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Nathalie Barge et Timothée Donangmaï en votre compagnie. Place au dossier du jour. Première escale, la Guinée.
La Guinée, où le dialogue plusieurs fois reporté entre le gouvernement et l'opposition aura finalement lieu la semaine prochaine. La date du 15 juin a été annoncée hier dimanche par les autorités et l'opposition affiche son optimisme quant à la tenue de ces discussions. Néanmoins, des préalables restent à respecter, selon Gandhi Tunkara, leader de l'UGDD, l'Union guinéenne pour la démocratie et le développement. Il a été joint à Conakry par Chérubin Dorsil.
Comme vous savez, il y a quand même des préalables que l'opposition a eu à poser. Parmi ces préalables, il y a la libération de tous les prisonniers qui avaient été arrêtés lors des manifestations et condamnés. Ça, c'est un préalable capital parce que l'opposition pense qu'il lui serait difficile de se mettre à une table de négociation alors qu'elle a des militants qui sont encore détenus pour des manifestations qui ont été faites. Donc, est-ce que le gouvernement va accéder à cela? On ne sait pas, mais je crois que c'est un préalable fondamental pour nous.
Alors, quand vous dites que c'est un préalable fondamental pour nous, est-ce que vous parlez au nom de toute l'opposition ou bien c'est votre point de vue personnel?
C'est mon point de vue personnel, mais c'est surtout un point de vue qui a été décidé ou arrêté plus ou moins au sein des dernières discussions avec les autres collègues de l'opposition. Mais bien entendu, je parle à mon nom personnel là.
Vous vous montrez optimiste, M. Tonkara, mais il reste encore, si je vous comprends bien, une possibilité que cette rencontre n'ait pas lieu.
Oui, il y a cette possibilité qui existe. Nous espérons vivement, parce que nous sommes de l'opposition plurielle, mais pas radicale. Nous sommes de l'opposition modérée. Donc notre souhait, c'est que cette discussion puisse commencer pour que la Guinée sorte de cette situation de blocage. Mais bien entendu, comme je vous ai dit, l'opposition étant plurielle, il y a des radicaux et souvent ils sont plus forts, ils sont plus nombreux, qui parfois tirent les choses dans un autre sens.
Si la rencontre a lieu comme prévu, à quoi vous attendrez-vous?
Nous attendons à ce que de part et d'autre, il puisse y avoir des concessions, notamment sur les points d'achoppement, tels que l'ordre des élections.
Vous aimeriez que la présidentielle soit le dernier scrutin à avoir lieu, c'est ça?
Exactement, tout à fait. Il y a aussi le fichier. Vous savez, le fichier électoral actuellement n'est pas maîtrisé. Nous ne savons pas quelles sont les données qu'il contient et nous voudrions que, éventuellement, comme cela s'est passé lors des législatives, qu'il puisse y avoir une expertise extérieure. Notamment, la dernière fois, je crois que c'était l'Union européenne. Donc, il a été difficile, selon nous, de faire certaines manipulations. Comme le gouvernement a décidé qu'il ne voulait plus d'assistance dans ce domaine, donc nous sommes un peu suspicieux que nous n'ayons pas la maîtrise de ce fichier électoral-là.
Gandhi Tunkara, leader de l'UGDD, l'Union guinéenne pour la démocratie et le développement.
La Voix de l'Amérique à Conakry sur Sabari FM, Soleil FM et Gangan FM. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Milo FM à Cancan et Sigiri, Liberté FM à Nzérékoré et Bolivar FM à Mamou.
Cap sur le Burkina Faso, où la joute présidentielle du 11 octobre prochain s'annonce déjà très disputée, vu le nombre de candidats qui ont fait part de leurs ambitions. Pendant le week-end écoulé, 3 prétendants ont été investis par leur parti, à savoir Ablassé Ouédraogo, président du parti Le Faso Autrement et ex-ministre des Affaires étrangères de Blaise Compaoré, Adama Kanazoé, président du bureau politique de l'Alliance des Jeunes pour l'Indépendance et la République, et Jean-Baptiste Natama, ancien directeur de cabinet de la présidente de la Commission de l'Union africaine. Voici un reportage de Zoumana Wonogo à Ouagadougou.
Le week-end dernier à Ouagadougou, pour nous les hommes de médias, il fallait pratiquement avoir le don de l'ubiquité pour pouvoir couvrir les différentes rencontres politiques d'investiture de candidats. Commençons alors avec le collectif Natama 2015, un regroupement de partis politiques et d'associations proches de l'idéal de Thomas Sankara. Comment alors comprendre qu'il y ait deux candidatures sankaristes alors que Mariam Sankara a donné sa caution au candidat de la convention? Écoutons ce qu'en dit Arnaud Marais, membre du comité de pilotage du collectif Notamment 2015.
Pour avoir été un peu proche de la procédure ou du processus qui a conduit à la convention sankariste, je mets des réserves. Maman Mariam Sankara est dans son rôle, en ce sens qu'elle apporte sa caution morale à toute initiative, à tout élan qui se réclame de l'idéal sankariste. Elle est parfaitement dans son rôle. Elle aurait pu être des nôtres si elle était encore là, pourquoi pas. Pour nous, choisir d'en appeler à la candidature de Jean-Baptiste Natoma, c'est reconnaître que l'homme est un homme de valeur, est un homme du renouveau, puisque nous sommes dans un contexte de renouveau sankariste. C'est en cela que nous estimons que M. Jean-Baptiste Natama est notre candidat qui incarne une alternative viable.
Voici comment Jean-Baptiste Natama lui-même explique sa candidature.
Je suis le candidat du changement. Je le reflète par ma virginité politique qui montre que je suis ce nouveau leader que la jeunesse du Burkina, le peuple du Burkina Faso attend. Le sankarisme, on ne l'a jamais codifié, mais je sais tout simplement que la référence au président Thomas Sankara fait allusion à son comportement, à son style d'action politique. Et peut-être qu'il y aura des similitudes.
Au même moment, l'Agir, Alliance des jeunes pour l'indépendance et la République, a investi Adama Kanazoé pour la course à la présidentielle. Voici ce qui le motive.
Je vais être président pour permettre au Burkina Faso de connaître un nouveau modèle de développement. Un modèle de développement qui sera basé essentiellement sur ses forces. Et sa principale force, c'est son capital humain. C'est cette jeunesse-là, massive. Cette jeunesse-là également qui est une force de travail qu'il faut savoir exploiter pour permettre à notre pays de connaître des vrais pics de croissance. Nous ne sommes pas de ceux qui utilisent la jeunesse comme un fonds de commerce. Nous ne sommes pas non plus venus pour dire au peuple burkinabé qu'il faille mettre le Burkina Faso au service de sa jeunesse. C'est plutôt le contraire. Notre souhait, c'est de mettre la jeunesse au service du développement du Burkina Faso pour notre bien-être à tous.
Au jour d'aujourd'hui, les intentions présidentielles affichées sont au nombre de 8, dont 3 militaires, 4 des partis politiques et un candidat indépendant. Mais les rangs vont continuer à grossir encore, car il reste plusieurs partis qui s'apprêtent à investir leurs candidats. Zoubana Ounougou, Ouagadougou, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique au Burkina Faso sur Ouaga FM, 105.2 à Ouaga et 101.1 à Bobo. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Horizon FM, à Ouaga, Bobo, Koudougou, Wayigouya et Fada.
La révision constitutionnelle, la paix et la sécurité au Mali, la construction des routes et des infrastructures de base sont les points essentiels de la déclaration de politique générale du Premier ministre malien Modibo Keïta. Des débats suivront jeudi prochain avant l'adoption du document par les députés. Kassim Traoré.
Devant les élus de la nation, le Premier ministre a décortiqué les documents que les membres du gouvernement doivent traduire en actes concrets dans les jours et mois à venir. Modibo Keïta, Premier ministre du Mali.
Nous avons choisi de bâtir la présente déclaration de politique générale autour de 3 axes. Visant premièrement à assurer la sécurité des personnes et la protection de leurs biens dans un environnement de paix. Deuxièmement, améliorer les conditions de vie et d'existence des populations. Troisièmement, promouvoir la justice et l'équité.
Pendant une heure de temps, le Premier ministre a touché à tous les segments de la société malienne. Construction de routes, d'infrastructures de développement, mais aussi la situation sécuritaire dans le nord du Mali, avec en toile de fond la situation sur le terrain.
Nous sommes meurtris devant ces scènes d'agressions multiples qui, hélas, ne cessent de s'amplifier. Cela, nous le déplorons et le gouvernement a la ferme détermination d'y mettre fin avec le concours de tous. Monsieur le Président, honorables députés, je mesure toute la place de la sécurité dans la construction, la consolidation de la paix et le développement. C'est dans ce sens que la réforme du secteur de la sécurité commencée en août 2014 avec la création du Conseil national pour la réforme du secteur de la sécurité sera poursuivie par la mise en place des organes du dit conseil et le recrutement de leur personnel.
Point de développement sans un assainissement du secteur financier, surtout que le Mali vient de connaître des cas de corruption dans l'affaire de l'achat de l'avion présidentiel et des équipements militaires.
Pour l'assainissement des finances publiques, les mesures à prendre s'orienteront dans le sens de l'amélioration de la performance des régies financières, l'efficacité, et la transparence dans les procédures de passation des marchés publics et de contrôle de la dépense publique seront renforcées.
La paix et la sécurité dans le nord du Mali, pour Kapa dans le Mali entier, ont une place de choix dans la déclaration de politique générale du Premier ministre, pour qui il faut aller aujourd'hui vers une révision constitutionnelle afin d'aboutir à une bonne application de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique, 24 heures sur 24, à Bamako, sur 102 FM.
Direction la Corne de l'Afrique pour évoquer l'Érythrée, qui est au cœur d'une enquête des Nations Unies. Selon les conclusions d'un rapport, les violations systématiques et à grande échelle des droits humains par le gouvernement poussent environ 5000 Érythréens à fuir leur pays chaque mois. Des réfugiés qui constituent la seconde population après les Syriens à se lancer dans la périlleuse traversée de la Méditerranée. Claire Morin-Gibourg a joint Jean-Baptiste Jean-Gène Villemer, auteur de « Érythrée, un naufrage totalitaire ».
C'est un pas en avant très important. Ça fait plusieurs années malgré tout que les Nations Unies s'intéressent à l'Érythrée, à travers notamment le groupe de contrôle sur la Somalie et l'Érythrée. C'est la première fois qu'on a un rapport substantiel, aussi substantiel j'allais dire, sur les violations massives des droits de l'homme en Érythrée, sachant qu'il y avait déjà eu les rapports de la rapporteuse spéciale qui a été nommée l'année dernière et qui était déjà très intéressant, mais celui-ci est le plus complet jamais réalisé sur la situation des droits de l'homme en Érythrée.
Est-ce qu'il est particulièrement inquiétant, on parle de milliers d'Érythréens qui sont forcés à fuir leur pays chaque mois?
Oui, bien sûr. Alors les chiffres, vous voyez souvent le chiffre officiel de 5000. C'est ce qu'on obtient en cumulant les fuyards qui traversent les deux frontières, l'éthiopienne et la soudanaise, et qui s'inscrivent dans les camps de réfugiés au Soudan et en Éthiopie. En réalité, on estime qu'il y a entre 5 et 10 000, donc c'est-à-dire potentiellement deux fois plus de fuyards chaque mois, parce qu'il y a aussi tous ceux qui restent clandestins et ne s'inscrivent pas dans ces camps et qui nous permettent de les recenser. Donc oui, c'est tout à fait inquiétant. Cette fuite, non seulement pour les conséquences, on en parle beaucoup en ce moment, c'est le débat sur la crise, ce qu'on appelle la crise migratoire, puisque ces Érythréens constituent le deuxième contingent le plus important à traverser la Méditerranée et à s'échouer sur nos côtes. Donc c'est important non seulement pour les conséquences, mais aussi parce que c'est le symptôme de ce qui se passe en Érythrée. Et que si ces gens-là sont prêts à risquer leur vie plusieurs fois, parce qu'ils sont tirés dessus à la frontière, ils traversent le Sahara, il y en a beaucoup qui meurent en route, ils arrivent en Libye maintenant, avant ils étaient souvent pris dans le Sinaï, il y a des phénomènes de torture, de détention, de viol, il faut après traverser la Méditerranée où ils risquent encore de mourir, tout ça pour arriver en Italie, et le trajet n'est pas fini parce que pour beaucoup, ils continuent de remonter vers l'Europe du Nord. Et donc toute cette fuite est très symptomatique de ce qui se passe, et il s'agit bien d'un régime non pas autoritaire, comme on le dit souvent, ou de n'importe quelle dictature, mais d'un régime totalitaire, ce qui est une espèce différente et beaucoup plus rare.
Jean-Baptiste Jean-Gène Villemer, maître de conférences en relations internationales à Sciences Politiques à Paris.
Salut les amis, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque lundi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, le top 10 American Music, les nouveautés de la musique américaine. Ne ratez pas votre émission interactive. RM Show vous dit Peace Africa.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, un rappel de quelques grands titres.
Voilà, début aujourd'hui au Ghana d'un deuil national de 3 jours en hommage aux victimes de l'explosion et des inondations de la semaine dernière. Voilà.
Et au Burundi, la CENI a proposé de nouvelles dates pour les élections. L'Organisation internationale de la francophonie appelle à la reprise du dialogue politique. Et voilà, c'est fini pour notre émission. La mise en onde a été assurée par Michel Joseph. Présentation Nathalie Barge et Timothée Donangmaï.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Retrouvez-nous sur Facebook et notre site internet voafrique.com. Les infos dans moins d'une minute.